Un jour, ils m'ont poussé dans un placard, puis ils ont refermé la porte. Et je ne les ai jamais revus. Ni la femme qui m'a sorti de son ventre, ni l'homme qui me portait un peu. Est-ce que j'avais crié trop fort? Ou peut-être ils ne pouvaient plus me nourrir? S'il n'y a qu'une chose de sûre, c'est qu'ils m'ont oublié. J'avais 2 ans. Parce qu'il m'avait donné un nom quand même, que d'autres trouveront plus tard en fouillant des papiers. Un nom sans adresse ni maison, laissé au hasard d'un village par ces deux-là, qui n'avaient que leurs jambes, et cette longue faim qu'ils traînaient sous le ciel, asseyait sur une pierre à un feu de carton. Je crois que je les ai appelés. Je savais un peu parler à l'époque, mais je n'ai pas trouvé les mots pour qu'ils m'entendent. Car ils sont restés encore un moment à côté de ma porte, dans la maison abandonnée. C'est de ces choses dont je me souviens par le bout de mes ongles. Je les entendais marcher, je savais même quand ils dormaient, à leur respiration. Jamais je n'aurais gratté sans tout leur bruit derrière, gratté à m'en bistourner les ongles et faire pousser à rebrousse-doigts. On peut m'en dire et m'en dédire, mais il y a des choses que je sais sans les mots, par le fond de mon corps, comme quand je touche une de mes blessures de chasse. Je sens la bête qui m'agriffe, la branche qui me perce. Tout revient aussitôt. Pour me rappeler le placard, il suffit que je frotte dessous mes griffes rondes aux cicatrices roses des phalanges raccourcies. Alors je revois 2 mains folles en train de supplier le bois, le fouiller jusqu'à l'os, avec le corps pendu derrière comme un petit chiffon. Puis, il y a eu le moment où j'ai cessé de gratter. Je m'appliquais tellement à entendre. Est-ce que j'avais encore une respiration? J'ai léché le sang aux 4 doigts. La lumière s'était éteinte sous la porte. Il n'y avait plus aucun bruit. Alors, cette fois, je suis d'accord. La femme et l'homme avaient bien quitté la maison. Je ne sais pas les heures qu'ils étaient, mais j'ai fini par m'allonger. J'avais la bouche sèche et rien qu'à m'en souvenir, j'ai la langue aussi dure que les dents. La dernière eau qui me reste part en giclée d'urine sur des cuisses trop froides pour être encore à moi. Ensuite, j'ai mes mains qui s'en vont. Elles raclent le sol, remontent vers le fond du placard. Parfois, le corps prend plus de place à mourir que lorsqu'il est vivant. Alors les bras s'étirent, le dos se cambre. Je n'ai déjà plus de souffle. Qu'un cœur lent et distrait, quand le bout de mes doigts s'enfonce tout à coup dans une fourrure profonde, quelque chose de très doux. Je rampe en désordre à me marcher dessus, car je sens une respiration derrière les poils, un ventre qui se lève, qui s'abaisse, avec cette odeur brûlante, irrésistible, d'entre le lait et le sang. Ma main avait touché une chatte grosse, avec ce poil en écorce, ses yeux de sève, de cette race tellement farouche que jamais l'homme ne la voit. Des chats de vent, presque impossibles, mais avec 8 lignes sur la queue, comme il se doit. Celle-là était venue pour mettre bas, entrée par un soupirail étroit sous un rideau de ronces dans le fond du placard. Ma bouche avait déjà trouvé des petits boutons roses perdus dans sa fourrure. Et je me tortillais furieusement pour ces giclettes de lait qui me venaient partout dans l'œil ou sur le front. Je gigotais si bien pendu à mon suçoir que je n'ai pas senti d'abord les chatons morts-nés qui roulaient sous mes épaules, se coinçaient à mon cou. C'est pour ça que la mère se laissait faire d'ailleurs. Autrement, j'aurais reçu la griffe pendue comme ça à ses tétons. À peine flairaient les chatons aussitôt dans ma bouche. Ils avaient les os si mous que j'en garde l'impression d'un ventre de lapin. De toutes les façons, j'étais si faible. Comment j'aurais pu survivre sans ces viandes à mâcher? Ensuite, j'ai dû me coucher contre elle, dans sa chaleur de fond de ventre, où j'aurais bien voulu rentrer. Le placard est dans une maison grande, perdue au milieu d'une forêt sans chemin ni personne, où les peurs des hommes restent accrochées aux branches qui ont griffé leurs joues, arraché leurs cheveux. Ici, l'arbre ne tombe que lorsqu'il est trop vieux. Alors on en trouve à pourrir, comme entre ciel et terre, tellement ils sont penchés. La forêt pousse les pierres, dresse les ronces, met les racines où elle veut, et ça lui fait une voix qui va parler aux bêtes, aux sources, aux oiseaux. Tous ceux qui la traversent, elle les remplit de silence. J'ai eu cette voix-là pendant 5 ans, dans mon dedans, à en oublier les hommes. Alors, je reste encore dans le petit placard, le temps d'ouvrir des oreilles sur la peau, dans mes os, jusqu'au creux de mes paumes, pour ramasser du son. Toutes ces vibrations par où la terre respire, ce qui fait l'ombre des bêtes, sans quoi elles ne savent pas aller. Je guette dans le noir ce moment où ma mère chatte écarte le rideau de ronces, s'enfile par le carreau cassé. Cette lumière d'un instant m'appelle l'eau dans la bouche, souvent je m'étouffe de plumes dans mes trop grandes fins. Les premières fois, je me laisse nourrir. Les proies que la chatte m'apporte sont tièdes encore, lourdes et molles. C'est là que j'apprends l'odeur de mort au regard éclaboussé, ces vapeurs du dernier cri. Très vite, cette odeur me devient un besoin, lécher la blessure sur le cou, tout ce par où la vie déborde, puis seulement après, bondir à la ventrée. J'ai maintenant 4 pattes, oublié les jambes et les pieds, quand la chatte commence de m'apporter des bêtes encore vivantes et je dois apprendre à tuer. Mes dents sont trop petites, mes yeux ne tiennent pas la lumière, je me cogne et grognonne. L'impatience me fait trébucher. Les lapins m'écorchent la peau du cou et la poitrine en ruant, tandis que je cherche la poche à sang dans le creux de la gorge où leur cœur bat si fort, où toute leur vie s'est réfugiée. Parfois le lapin m'échappe, je sens sa panique qui ricoche contre les murs, j'entends la bête qui fulmine, les moustaches retroussées, prêtes à mordre, ou retient sa respiration. Je feins de l'oublier, puis soudain j'y retourne, la mordant de travers pour faire suer la mort un peu partout au placard, débusquer ses gémissements de fond de ventre, piaulements d'ardeur désespérée. Je crois que les viandeurs se nourrissent d'abord des hurlés de leur proie. Ces sons-là vivifient autant que l'odeur du sang. Les chats sont des buveurs de cris. Alors, je tiens sur 4 pattes. Je sais maintenant tuer. Un soir, la chatte me tire dessous le verre cassé. Mon dos se griffe de cette blessure d'épaule qui se rouvrira chaque fois que je passerai le soupirail. Une croûte vive, mais je sors du placard, je gagne la forêt. La nuit se lève. Ça met le bleu du ciel dans les troncs, les feuillages, avec ce clair de nuit qui fait de l'ombre à l'ombre, allume dans l'étoile les yeux des araignées. Le jour est pour les bêtes à sève, la nuit est pour les bêtes à sang. Quand nos proies gonflées de graines, de fleurs, de fruits sont mussées à dormir dans les fentes, dans les nids, quand la terre fait comme la chair d'une viande vive roulée dans les brindilles, où nous plongeons la patte, où nous fourrons le nez, quand chaque empreinte dresse une odeur, où la fourrure s'entortille, puis soudain disparaît. La chatte est là, immobile, elle me sent qu'il voudrait bondir, courir, retourner comme des pierres tous les sentiers de la forêt, mais elle ne bouge pas. Alors je m'empêche, je retiens ce qui frétille, je fais comme elle, la patte dans sa trace, le nez à son vent. Nos moustaches s'éparpillent pour palper le vide, chercher les fentes où ça respire, un étirement dans une mousse, un lapin en train de rêver. Et d'écouter si tant nous couvre de silence, tout se tait au-dedans, nous ne sommes plus que la forêt. Est-ce que je pars ensuite ? Je n'ai aucun souvenir de chasse pour mes sorties de première fois, que ces frémissements d'impatience quand la chatte me contraint à la raideur tout juste échappée du terrier, accroupie auprès d'elle pour guetter si longtemps. Puis un bonheur me vient de sentir ainsi la forêt sans la voir, avec toute sa musique de feuilles, de cris, de sources. Chaque nuit fait une nouvelle forêt. Je ne sais plus y entrer maintenant sans l'avoir d'abord écoutée, comme quand les hommes se parlent entre eux, pour y courir après sans rien couper de sa parole. L'hiver venant, le placard devient un trou d'oreille pour écouter sous la forêt. La neige n'y entre pas, on s'y blottit pour mélanger nos étirements, nos roucoulements de fond de rêve. C'est un nid de couenne vieille, tissé de plumes, d'os et de feuilles, où vient hiverner le crapaud, avec une odeur de bois qui prend l'eau, comme un avant de champignons. Ne manquent que les petites bêtes noires serrées sous les dépouilles, mais peut-être parce qu'il fait trop froid. À la neige fondue, nous quittons notre cachette, dormir partout dans la forêt, un voyage jusqu'au bout de l'été, qui nous pousse d'une fin à l'autre dans le pays de notre odeur, marqué au pied des roches d'un sirop lourd ou pissé droit sur les troncs. J'ignore comment la chatte sait pour les terriers déserts, les trous sous les racines, car je ne l'ai jamais vue fouiller ni hésiter à nous trouver une cache, comme pour nos viandes à queue fine qu'elle cueille sous les fougères presque sans se presser. Je me dis des fois que les souris l'attendent. La vérité, c'est que le chat forestier devine la bête avant le cri. Il est comme le tapis de feuilles où la proie imprudente est allée se motter. Quand il s'élance soudain, on dirait que les arbres le suivent, qu'il entraîne après lui un bout de la forêt. Alors on dort par à-coups sur une mousse tiède, un couchis d'herbe avant. Puis brusquement on décampe, on part suivre une faim, mais pas seulement, parfois c'est pour l'approche d'une bête à viande, on n'aime pas se croiser. Ou simplement que ce coin dans le bois se fait moins avenant, il met du froid au fond des ombres, un mauvais cri, une rumeur qui vient souiller le son, où la forêt ne s'entend plus. Si bien qu'il faut partir, ici aucune bête ne reste hors d'oreille trop longtemps. Narine flairante, elle se coule au passe juste, retourne à ses sentiers de discrétion. Ainsi, d'une neige à l'autre, nous tournons en soleil par le travers de la forêt. On ne sent pas le voyage car il se fait à l'infime et parfois on chicane. D'un coup de griffe à un coup de dent, d'une roche chaude où guettait le vent de lune, à cette suée sous les herbes où viennent dormir les tritons. Mais il y a toujours ce moment, un peu avant l'hiver, notre retour au placard, où de gros mâles viennent à notre entour pour acérer les buissons. Il faut dire que Mère la bête s'est mis la tête à l'entrecuisse, attrapée par une odeur qu'elle lèche abondamment, puis qu'elle va frotter sur les troncs où viennent feuler les mâles. Ils se battent, s'arrachent l'oreille, couvrent les herbes d'un poil sanglant, jusqu'à ce que la chatte les rejoigne pour s'aplatir dessous le plus féroce. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'aime pas comment le chat l'accroche, la carotte. J'ai peur qu'il me la tue. Après que le mâle l'a bien démenée, mordue partout, Mère la chatte a le ventre qui grossit, au plus rond d'un jour l'autre. Alors elle va forcer les viandes, puis encore elle dort et part encore chasser. Ses yeux me passent sans me voir, moi seulement je la suis, je ne sens plus la faim que l'affolement de la perdre. Salive amère, je me contente de pattes raides, de ressucées et de racines, couchée comme dans un tas de branches au milieu de mes os. Comment est-ce que je sais que son lait me reviendra bientôt? À dire le vrai, peu m'en importe, je n'en agace pas la raison. Que serais-je sans ces pauvres malices? Une maigre charogne roulée dans un buisson et rien d'autre. Mais vient enfin le jour où elle se glisse au placard pour s'ouvrir en saccade sur un lit de duvet. J'attends qu'elle renverse les yeux et la tête en bascule, à mettre toute sa force dans chacun de ses cris. Alors je passe le carreau et la gueule à son trou, je gobe toute sa portée. Et pendant que je grandis, accroupie sous les arbres, je suis maintenant une bête pleine, avec plus rien d'enfant. J'ai ma fourrure en cheveux que je me coince au derrière le temps des chasses longues. Elle me chauffe et me cache en même temps. Ma peau est brune, verte par endroits, pour cette poussière grasse que j'attrape en grimpant le long des troncs. Et j'ai des lèvres larges, encroûtées de poils et de sang. J'ai 6 ans. La forêt est dans ce temps d'avant les feuilles. Mais les nids sont encore vides. Nos proies dorment sous la terre comme des graines à germer. J'ai désormais des griffes longues, je les retourne par le dedans des mains quand je galope, car je m'appuie où les doigts me commencent. Ça m'a mis un retroussi de peau et gonflé une cheville par le tour du poignet. Mauvaise saison, les dents pointent partout. Au moindre chicotement à l'entrée des terriers, 10 bêtes à viande pour un lapin et qui s'étripe. Il n'y a plus que l'obsession de tenir sa vie dressée comme un bourgeon par-dessus les feuilles mortes. Un bourgeon minuscule qu'un rien dégrafe ou fait tomber. Alors je souffle, je crache, je tranche le cou d'une griffe leste. Mes crocs plantés en haut de la colonne pour éreinter ma proie tout au long des ruades. Mis à griffer plus fort lorsqu'elle tressaute, cambre les reins. Lui planter des douleurs subites qui lui saigneront le courage, comme pour ce lièvre qui m'a promené tellement avant d'y renoncer. C'était après une neige haute, je tenais l'affût sur une branche avec la chatte grosse, quand un jeune chevrillard partit s'enliser profond pour une feuille de roncier. Nous bondîmes en même temps, la chatte pour contrer la biche, moi pour dévorer son petit. Le faon ne bougeait plus, ses yeux grands tournés vers l'ailleurs, avec le calme des bêtes qui se savent une mort obligée, tandis que je le viandais par l'encolure, encore droit et vivant. Soudain, j'ai senti sa chair qui frissonnait si fort se dénater sous une de mes lacérations. Des giclées de sang m'inondaient de partout. Je redoublais mes coups de dents, puis je léchais éperdue, ronronnante, jusqu'à ce que le corps s'écroule, me plongeant dans une neige rouge que je léchais aussi. J'ai vu tellement de peur aux prunelles débordées des bêtes que je saignais. Je saurais dire beaucoup de la fierté des lièvres, du courage insensé des musaraignes. Toutes ces choses que la bête est sans le dire, et chacune à sa guise, au point qu'on reconnaît un cri, un pas, comme une coloration. Les bêtes n'ont pas de larmes. C'est une eau qui part dans leur salive, car il leur faut une bouche neuve pour sentir, respirer. Le regard des bêtes est beaucoup dans leur gueule, un peu seulement dans leurs yeux. Les bêtes ne savent pas pleurer, car il faut la parole pour nourrir un chagrin et se le faire durer. Tandis que le silence des bêtes est comme un vent. Il n'est jamais le même, d'un instant l'autre, ce qui courbait l'épaule l'aide à se redresser. En ce temps, mes pires détresses sont toujours des blessures du corps, élan brisé de pattes qui voudraient courir encore, tout ce que retient la faim ou bien l'épuisement. Si bien que je m'aplatis ventre contre terre, avec un gémissement pour appeler la mort. Puis comme elle ne vient pas, il faut bien que je me lèche, depuis le cou et remontant vers la patte sous les griffes, et même au bout d'oreille, pour trouver là où je suis, là où je m'interromps. Tout ce que touche ma langue reprend une chaleur, puis une force, jusqu'à cet instant où j'entends le grattement d'une viande au sortir du terrier. La faim revient, je bondis. Les truites sont cachées sous les berges et je les pêche à l'épouvante, battant des pattes ou retournant le sable jusqu'à la vase. Il y a dans leur ventre quelque chose qui m'affole, le goût des abeilles qu'elles ont gobées. Quelle surprise délicieuse que ces croustillons gorgés de miel au milieu des viscères laiteuses et de la chair glacée. J'en prends tellement l'envie qu'il m'en faut toujours d'autres et je deviens rusée, tapis près de l'endroit où les abeilles sont à boire, à ces mousses crépues où les truites clapotent pour se les attraper. J'y reste tant, j'oublie les autres viandes. Il n'y a plus que cette faim comme une fièvre longue. Celle qui s'envole, je la suis. Et la perdant, j'enfile une autre, puis de fleur en fleur, jusqu'à ce que j'arrive à la boîte fermée, où elles sont toutes à sortir, à rentrer. Corbleu ! Un tel grouillement d'abeilles ! Mais c'est un bonheur impossible à décrire, moi qui n'ai jamais mangé que pour le ventre plein. Je me suis fait une coulée, depuis le haut de la forêt jusqu'aux gorgées de miel, et j'y cours avec cette faim terrible que rien ne sait calmer. D'abord, je flaire dessous les rives, pour une truite peut-être, son ventre sucré amer. Puis, il y a cet endroit où le sable est blanc dans le milieu de l'eau. Là, je me mouille, comme on se roule dans une charogne, mais sans lâcher prise. Ensuite, je file, toute pleine de gouttes et de froidure, ouvrir les boîtes à abeilles, y plonger les griffes et le cou. Elles sortent en nuages. D'abord, elles tournent un peu, avec un bourdonnement perçant, mais il y a toujours ce moment où elles me couvrent et buvant chaque goutte posée partout sur moi. J'aime ce poil poussé jusqu'au coin de mes lèvres, ce pelage vibrant avec son grouillement de soie, d'antennes et d'ailes, qu'un frisson suffit pour le faire s'en aller. Je bouge à peine, elles se dispersent. Je redeviens une bête nue. Ma fourrure se dépiaute devant moi dans le ciel, mais je la veux encore. Je me fige un instant, le temps de la rattraper toute. Allez, venez, sur mon nez, au bord des yeux, toutes, toutes, pour les faire envoler, mais quelques pas plus loin. Est-ce que ma peau s'est endormie aux douleurs et portant les morsures, les épines et le froid ? Je préfère croire plutôt qu'elle ne me pique pas. Je m'en suis fait comme une danse, figée d'abord quand la pâte engluée de miel. Je laisse les abeilles m'habiller pour soudain bondir, le temps qu'elles s'éclaboussent dans le partout du ciel et leurs ailes à briller. Ici, la chatte ne venait pas. Parfois, je l'entendais crier, un feulement sourd comme pour m'avertir. Comment aurais-je reconnu l'odeur de l'homme, moi qui l'avais tant oublié ? Il suffit de très peu pour dévier de sa trace, laisser perdre le silence, tout le sentir de la forêt. Et je ne faisais plus rien au pareil qu'une bête. Au lieu de ma saison d'errance à dormir sous ciel clair, je gîtais dans ce grand terrier, creusé sous les rochers au bord de la falaise. Les premières fois, j'y avais trouvé un renard, un vieux mâle charbonneux qui me croisait avec un semblant de ne pas me voir. Puis le renard n'est plus venu, et il y avait cette odeur un peu grasse frottée partout sur les parois. Aucun terrier aussi grand ne reste inoccupé pendant la saison des naissances. Je n'avais pas à être là, à Langui, tout empoissé de miel. Mais voilà, j'y étais, pour le pire, cette nuit-là. Roulé dans mes cheveux, gueule entrouverte, narine éteinte, quand je fus réveillée par un bruissement de foin raclé sur les parois, un bruit qui dressait la peur sur mon dos et qui semblait marcher vers moi. J'ai d'abord couru vers la creusée qui sortait aux racines, mais là aussi, même bruit de grature, avec cette odeur musquée qui se rapprochait de partout. Alors je me suis enfilée par la galerie la plus large, où j'ai vu la lune d'abord un instant. Puis tout a disparu derrière cette bête immense qui bondissait sur moi. J'étais perdue, je n'avais plus d'enfuite, et je piétinais de terreur, ne sachant plus où aller. La bête lança un croc sourd. Deux cris lui répondirent par les autres galeries. Battant d'une griffe au hasard, je crachais comme une chatte folle, essayant de gonfler le dos. Mais déjà, je sentais mon ventre partir à la venette, ce qui nous vient à nous les bêtes quand on voit la mort approcher. J'étais en train de m'accroupir quand un coup de patte formidable me retourna complètement. Ces griffes larges, puissantes, des pattes de blaireau. Ils m'encerclaient, hennissaient avec des ricanements affreux qui découvraient leurs canines, dilataient leurs groins. C'étaient deux mâles et une blairelle, les mamelles lourdes encore et la plus enragée. Je choisis le moins trapu des mâles et sautai à son cou. Son corps se déroba devant moi avec une rapidité surprenante. La tête disparut, je cognai un dos épais comme un tronc. Je n'avais plus le temps de me tourner que les deux autres déjà m'étaient tombés dessus. J'ai senti quelques morsures et ma viande arrachée. Puis le sang m'a chauffé comme à ces petites bêtes que l'on chicane de griffes et de dents. Ça leur fait un venin qui leur trouble la vue et elles souffrent un peu moins. Ainsi, je n'entendais que le bruit, mais sans éprouver la douleur quand ils me jetaient sur les murs, mes raflant de partout. Oui, vraiment, j'avais l'excitation des souris, cette épouvante joyeuse de se voir mourir à côté, si bien que je ne sentais plus rien. J'avais la force encore de protéger le cou. La soif me collait la langue, j'écartais un peu les lèvres, car il n'y avait plus ici le moindre filet d'air frais. Que la touffeur des sueurs avec cette huile forte au trou du jeune mâle et l'odeur de mon sang, tandis qu'il s'acharnait à me tourner pour que je m'ouvre, qu'il me saigne. Mais je dressais les épaules, je rentrais la tête, leurs pattes ne passaient pas. Soudain, ils arrêtèrent de mordre, la blairelle s'approcha, elle me reniflait par-dessus. Je devinais ses yeux perçants, elle posa une patte sur ma tête, puis resserrant ses griffes filées comme des couteaux, m'embrocha le tympan. Je poussai un cri si profond qu'ils s'écartèrent de moi un instant. Je n'entendais plus rien qu'un mélange de stridence, comme si tous les sons que j'avais attrapés jusqu'alors étaient à s'échapper en sifflant par les trous de ma blessure. Ainsi, coupé de la forêt, mon corps s'alourdit, tant et si bien qu'ils me crurent morte. Les blaireaux sont les bêtes les plus propres qui soient. Ils ne supportent aucun débris, rien de ce qui encombre les galeries de leur terrier. Ils léchèrent mes plaies, grignotèrent mon oreille à demi, avant de me rouler jusqu'à la racine qui borde la falaise. Alors, d'un coup de nez, ils me poussèrent dans le vide de la combe. J'y plongeai d'un grand coup, ma tête la première, tournoyant un instant, le temps de claquer une patte au rocher, rebondir contre un tronc. Puis j'ai roulé encore un peu dans les feuilles, me mettre enfin à l'arrêter. Longtemps après, j'ouvre les yeux. La nuit est là. J'ai la lune dans un œil, l'autre reste fermé. Du sang coule au fond de ma gorge. Je claque des mâchoires à chaque gorgée. Avec cette impression étrange d'avoir retourné la gueule à mon cou et d'être en train de me manger. Le jour se lève, voilà maintenant qu'il pleut et la douleur revient. Comment est-ce que je sais ramper encore ? Je me souviens d'avoir poussé du bout des griffes, je crois surtout que j'y ai mis les dents, des bouchées de feuilles molles, de racines, de bruyères. Pour remonter de la ravine, j'ai serré entre mes lèvres la moitié de la forêt. Rentrer des aiguilles sous mes plaies, ainsi j'avançais tortillante et blessée, comme un ver piqué d'oiseau, sous les regards d'entrefeuilles des bêtes à l'embusquer. Ensuite, mon corps a passé la rivière, et là encore j'ignore comment, mais il a bien fallu ce moment où je suis arrivée près des abeilles pour cogner les boîtes, appelées sans la gorge ni pleurant. Alors elles sortent un peu, puis d'autres encore. Enfin, tout en même temps, elles me couvrent, serrées au fond de chaque morsure, dans toutes mes viandes arrachées. Ça fait un bourdonnement qui me berce, me console, avec parfois des explosions d'étoiles, jusqu'à ce moment où je m'endors enfin, parce que je n'ai plus froid. J'étais encore couchée sous mon manteau d'abeille quand une fumée lourde est venue partout sur moi. Ça les a envolées. À mon dessus, il y avait une longue bête blanche. C'est elle qui tenait le feu. Une bête sans fourrure, ni les oreilles, ni la queue. Avec des yeux, peut-être, derrière une feuille grise percée de petits trous. Et loin derrière, au bout des yeux, un regard d'homme. Là, je crois que mon cœur aurait trouvé sa fin si l'homme en blanc ne m'avait donné un coup de patte. Pour me tâter de loin, toucher si j'étais déjà morte. Mais on ne tâte pas un chat, fût-il bête, enfant, nourri au lait du forestier, tant qu'il n'est pas grouillant de verre, au moins parti à la charogne. Il me restait assez de force pour bondir sur le pied, lequel bascula en arrière avec tout son frusquin de feu, hurlant comme font toujours les hommes. Sortant de sa poche le long outil qui lui sert à ouvrir les ruches, il m'en donna trois coups sur la tête, assez du moins pour m'assommer. Puis je crois qu'il m'attrapa par les cheveux pour me tirer tout du long de la pente jusqu'à la maison, me jetant comme ça, dans la cuisine. Alors, je reconnus l'odeur. C'était la maison du placard. J'étais revenue à l'endroit même où, 5 ans plus tôt, la femme qui m'avait sortie de son ventre et l'homme qui m'avait porté un peu avaient poussé la porte pour ne plus jamais m'entendre. Il n'y a pas pire douleur chez la bête que la solitude de son pas. Perdre la trace du silence et trouver un vacarme à son propre souffle, à son cœur qui bat. Ce chagrin dura plus de 2 ans. Un goût de foie d'oiseau. Au long des jours, je dormais accroupi sous la table, apeuré par l'odeur du feu froid. À côté, j'avais ce bol d'eau morte que je ne savais pas boire car on y avait mis des mains d'homme ou ça avait touché un chien. Mais comme l'odeur venait aussi sur la viande, quand on me la jetait par la porte entrouverte ou bien poussée encore par le bout d'un bâton, j'avais trouvé pour moyen de la laisser un peu pourrir, ce qui m'a mis le goût aux chairs noires et faisandées. Je n'ai donné aucun regard à celui qui m'ouvrait la porte, c'est pourquoi je n'en ai pas la mémoire. Parfois, quand il ne venait pas, je me grattais une croûte ou m'en perçais une plaie. Mais je me souviens surtout de cette bonne puantise, ces chairs liquides et grouillantes des viandes parties à la charogne, avec ces relents d'urine et de fiente qui me tenaient partout, même à la nuit, comme l'arrondi d'un terrier. Parfois, la porte s'ouvre large et la lumière m'écorche jusqu'au derrière des yeux. C'est de ces jours où l'on me lave, alors je cours, je me cogne partout pour éviter les paquets d'eau, avec les frottés d'une brosse qui met le chien dedans à mes croûtes, me pousse à cracher des colères, où je trouve toujours moyen de lancer une griffe, bondir à la querelle. Devant mes pattes, ça crie un peu, le manche du balai tombe à côté du seau, rempli d'une mousse amère, et la porte claquée. Si j'étais sale, autant... C'est que je n'avais plus les rosées, la brosse fine des bruyères, tout ce qui me lavait à la furtive du temps que j'y courais dedans. Quand la forêt s'éteint, le sauvagin a le poil qui se colle. Il prend la mâle bouche et ne sait même plus le moment pour crier. Tout ce temps-là, dans la cuisine, mes griffes ont poussé rondes, au point de se tourner vers le creux de ma main. À force aussi, on n'a plus vu ma peau. Cachée sous une écorce de suie, de saleté et de fiente, j'étais comme une graine. Les graines sont ternes, on dirait des morceaux de rien. On ne peut pas savoir tout ce qui espère à l'intérieur. L'homme, plus tard, je l'appelais Limaï. Un jour que je l'eus retrouvé à la grange où il perçait le fer, et sentant cette odeur tout à fait comme lui, je demandai le nom. C'est une sueur farouche cachée sous ses habits. Je ne l'attrape pas toujours quand il entre. Il faut d'abord qu'il se baisse, qu'il m'approche, ou mieux encore à nos disputes, si je lui tiens la jambe, qu'il sort la pointe fine de son bâton. Les bêtes ne parlent pas, pour la raison qu'il y a un père des hommes qui l'a voulu ainsi. Les bêtes ont le silence et les hommes ont les mots. La langue peut dire « la bête est moins que l'homme » et la bête se tait. Limaï dit qu'à 2 ans, j'avais la langue, mais je l'ai perdue dans les bois. Il dit encore qu'elle ne me reviendra jamais comme celle des autres hommes, car du silence s'y est mis. Ça fait une manière de désordre, comme à vouloir tenir un chat sauvage derrière les murs d'une maison. Limaï ne m'a jamais dit comment Père aux cieux avait créé le monde. Mais il y a tant à regarder, à sentir, à toucher, qu'il n'a pu le faire qu'en hurlant, avec une voix plus grosse que le tonnerre, pour mettre bien du silence autour de chaque mot. Un silence où les bêtes se tapissent de crainte qu'on ne les tue. La langue du Père des hommes a créé le ciel et la terre, le jour et la nuit. C'est encore Limaï qui l'a dit. Elle a créé les bêtes aussi. Puis, une fois que Père Ossu a bien fait le verbe et les hommes, l'homme jette l'enfant dans la forêt où la bête le fait sauvagin. Mais je ne sais pas le mot pour le frusquin crasseux que je suis devenu. Est-ce qu'il y a encore un nom pour ce qui arrive après? Quand c'est par le dedans qu'on s'abandonne. Je n'ai pas senti tout de suite que la maison était vivante comme un morceau de forêt. Il y avait bien ces jours de vent où elle prenait des sons que ne font même pas les arbres, et cette tiédeur que je trouvais à certains endroits avant d'y mettre le ventre, comme si elle s'y était couchée pour moi, ou sa façon de m'y attendre. Des choses infimes, mais je sentais une vie derrière, comme une respiration, et tout ça me faisait une manière de caresse. J'étais dans le ventre d'une bête douce, mais qui ne me mangeait pas. Après, il y a eu cette neige haute où l'on m'a encore oubliée toute seule dans la maison. Combien de jours suis-je restée ainsi sans rien à boire ni à viander? J'avais retrouvé la mauvaise faim. Je mordais le bois, mâchais mes cheveux, quand j'entendis enfin gratter la neige devant la porte. Limaï ouvrit. Il tenait un chien d'oiseau à son côté par une corde, une bête jeune, poil ras et tête grosse. Il va de soi que j'ai bondi à sa gorge, autrement le chien m'aurait mis ses dents. Il y a cette répulsion de toujours entre nous autres, un dégoût d'avant y penser. Puis, me l'ayant bien mortoyé, j'étais allée manger un peu de tête, quand Limaï sortit la pointe fine cachée dans sa canne. Je crois qu'il voulait me percer. Il répétait avec une voix de sang le souffle, « Mais quelle sorte de bête es-tu donc ?» Je n'avais pas la cheminée, rien pour m'accrocher. Dressé debout la parole, je ne pus que lever la tête pour répéter derrière lui. « Mais quelle sorte de bête es-tu donc ? Tu sais parler ?» Il restait suspendu à son geste, la pointe toujours braquée sur moi. Et là encore, « Tu sais parler ?» Soudain, il recula et tirant les restes du chien d'oiseau, referma brusquement la porte. Il était descendu au village chercher la vieille mère qui lui donnait le lait lorsqu'il était enfant. C'est de ces choses qu'il m'a dit par la suite quand j'ai su le parler. Elle avait les jambes lentes, un ventre lourd. Ils revinrent à la nuit. Quand ils poussèrent la porte, la flamme de la lanterne m'avait mise au repli. Limaï avait écarté la table. Il tapait l'ombre pour me trouver avec le bout de son bâton. Elle le rappela à la porte, referma derrière lui. Et sans même me chercher, sans se soucier de moi, elle s'assit lentement, couchant les jambes à la terre sale, où il restait du chien peut-être, un sol de troche, tout embousé. Là, adossée contre les pierres, elle souffla la bougie puis s'endormit. Il y avait sous ses chaussures une odeur de terre fraîche et d'herbes écrasées, une autre sur sa blouse avec des bêtes fortes, les chèvres qu'elle avait traites. Les mains parlaient aussi. Où je saurais d'abord l'oignon est là et qu'elle serre toujours entre 2 doigts, puis peut-être une poule avec une mort récente qu'elle venait de plumer. Et ce mauvais sentir qui me rappelait le chien dans de Limaï, je l'appellerai savon plus tard, un peu sur l'avant-bras. Je la flairais de près, mais elle dormait encore. C'est ainsi que je suis aussi pour le chat frotté à ses jambes. Ses cheveux, roulés en boule, me rappelaient ces herbes jaunes et humides qui couvrent le fond des terriers, une odeur où je serais bien allée gratter. Mais elle eut un geste à peine, je bondis à mon coin, et pour cette fois n'y revins pas. Le lendemain, elle était là avec d'autres odeurs et dormant encore à la vite, quand je découvris dans sa poche quelques rondelles de saucisson. Le jour d'après, c'était un bout de lard oublié dans sa main, que je dérobais comme pour le reste avec mes deux dents fines. Puis, il y a eu cette fois où j'étais attirée une viande sèche par un dessous de tablier, quand je vis ses yeux grands ouverts. La vieille mère me regardait. Je remarquais aussi la lanterne qui brûlait. Mon dos se rebroussa pendant que je fixais tour à tour la flamme de la bougie et les yeux de la vieille. Mais il n'y avait rien dans ce regard pour asseoir une peur, rien même pour se méfier. Ses prunelles brunes posaient sur moi une manière de caresse. Et je relâchais les pattes, sans l'envie d'en bouger. Alors un jour, il y a cette vieille main qui vient vers moi. Elle est tellement légère que je ne lui vois même plus le bras, seulement le bout des doigts. Et chacun a des yeux pour s'ouvrir un chemin au roncier des cheveux, qui me pendent par devant le visage et tombent même jusqu'à terre quand je suis accroupie. D'abord, les doigts apprennent un peu le front, puis le nez et le bord des babines, où je pourrais mettre une dent, mais pour cette fois, je n'y pense pas. Quel que soit l'endroit qu'elle m'effleure, je me sens touchée par l'ailleurs, et toujours un peu dans le ventre où ça me cogne tellement fort que j'en perds des respirations. Combien de jours encore avant que les doigts ne descendent par le derrière des épaules pour me coucher la tête sur la blouse qui sent les chèvres, où je chercherai dans la poche un bout de saucisson. Elle me dira par l'ensuite comment la vermine lui remontait par les bras, par les jambes. Limaï la voyait sortir de la cuisine, se grattant de partout. À elle, je ne trouvais pas de nom. Avec toutes ses odeurs, tant de doigts et le reste, jamais je n'aurais pu choisir. Je crois qu'elle se nommait Lucette, Limaï l'appelait Doucie. C'était son surnom de nourrice, pour ceux qui lui avaient mis leur bouche et qu'elle avait élevée. Maintenant, les seins avaient séché sous sa blouse. Mais je pris le nom quand même, l'appelant Doucie comme avaient fait les autres, mais sans lui boire le lait. Ce que la forêt m'avait mis, j'ai dû apprendre à le défaire, et je me sentais comme le lierre décroché de la branche, une tige molle et déformée. Car Limaï s'était mis dans la tête de me dresser à la fille pour que je sache me tenir comme un homme en toute droite, dans leur façon. J'ai dû porter un cuir rond, impossible à ronger, qu'on m'agrafait sous le menton. On me l'enfilait la nuit, souvent par ruse. Les mains nouées derrière le dos pour m'empêcher de le défaire. J'avais aussi une ceinture qu'ils appelaient la taillole, me brimant depuis la taille jusqu'au dessous du croupion. Et c'était des douleurs nouvelles. Elles me rentraient partout dans mon dormir, au pas à pas, pendant la faim. Au point que je ne pensais plus qu'à chercher le mouvement d'une trêve. Le lever d'épaule, la jambe tendue qui suspendrait un lancinement. Jamais je n'aurais cru qu'il y avait tant de manières de souffrir pour désapprendre la forêt. Mais je devais surtout parler, où il faut une chaise et une bouche, ce qui avait pour avantage de m'ôter en même temps la taillole et mon cuir du menton. Limaï disait d'abord, je répétais après lui, avec cette voix vilaine où les mots se cassaient. Ainsi, je reprends la langue là où elle m'a laissée. C'est comme de retrouver une trace ancienne et se rappeler tout à coup de l'emplacement de la source, reconnaître un pays. Il parle, je comprends presque tout. La parole n'est plus dans les pierres ou seulement dans leur voix. Mais je l'entends encore après, quand vient le silence. Je suis pleine de leurs phrases. Tout me reste dedans. J'arrive au temps des phrases longues, avec une robe large, des pieds sales à la nue. Ce moment du mi-temps entre la fille et la bête. C'est une saison douce car elles tiennent la même place. Le jour est aussi long que la nuit. Il y a la patte ou bien la jambe, la parole ou le cri. Chacun son heure, mais les douleurs en sont parties. Je marche au bout des pieds sans poser les talons et j'ai appris aussi à brosser mes cheveux. Il y a un alphabet des gestes où l'homme a mis toute sa chair pour qu'on le reconnaisse quand il se dresse. Mais si le mouvement se précise, si ça ondule encore après que la main ou le cou ont fini de bouger, c'est que quelque chose se distingue, que la fille apparaît. Une fille, c'est une odeur de sang, avec les cheveux autrement, du fragile au poignet. Je reste fille jusqu'à ce que le jour bascule, puis soudain la terre me paraît trop loin. J'ai besoin d'y couler le ventre, c'est alors qu'il me faut fianter. Car il n'y a plus rien que je mange dans les placards de la maison, je n'en ai plus la salive. J'ai faim de mort vivante, au regard resté entr'ouvert, de ces chairs qui s'écartent en craquetant d'effroi. Puis les herbes se redressent, le regard tient dans les ombres, bientôt le jour paraît. Il suffit de très peu pour me remettre à la fille. Une frottée de fougère, une robe enfilée, trois pas vers la maison. Puis, Limaille décida un jour qu'il fallait nettoyer ma parole. Elle avait trop traîné sur la terre noire de la forêt. La prière à apprendre était remplie de mots que je n'avais jamais su parce qu'ils ne touchaient à rien du dehors. Dans ce qui se voit, qui se sent, où je me souviens surtout du mot « sanctifier » que je n'ai pas pu comprendre malgré toutes les explications que Limaille m'en donnait. Enfin, je finis quand même un jour par tout répéter devant lui sans erreur. J'étais prête pour le baptême. Doucy s'était mise à la robe. Un de ces prochains jours, nous allions descendre au village, entrer dans la grande maison bâtie dans son milieu, où les hommes se réunissent le dimanche pour se partager les morceaux du petit enfant nu. Celui que notre Père aux cieux a fait tomber du ciel, que votre nom soit sanctifié. Alors nous voilà partis tous les trois à marcher sur deux jambes. Devant, c'était tout à descendre. La forêt tenait le haut d'une montagne et le village s'accrochait à mi-pente après des arbres plus petits que l'homme avait dressés comme des chiens à garder le pourtour des champs. J'avais laissé les feuillages, le village n'était plus très loin. Mais les jambes me semblaient lourdes, tout me venait à l'effort, avec une peur nouvelle sous ce trou de lumière où je cherchais comme une peau l'ombre odorante de la forêt. J'étais sur le point d'y retourner, et cette fois de toutes mes pattes, quand j'aperçus les enfants. Au moins, cela n'avait pas encore été poussé par les hommes sur les lisières de l'abandon, car ils avaient mis les habits propres, et je sentais sur eux des gestes. Ils me suivaient derrière le muret avec des yeux vivants d'enfuite, de cris tenus, de poils dressés, et laissant une odeur très chaude d'herbes coupées et de lait tourné, avec des cuisines ou des choses bonnes dans le bout de leurs doigts. Mais comment j'avais fait pour oublier les enfants? Alors je leur bondis après. C'était vers l'entrée du village, car j'avais aussi oublié la prière, le baptême et comment tenir les mains derrière la robe, oublier les deux jambes et surtout à ne regarder qu'une seule chose à la fois, sans tourner les yeux en brusquette, comme font toujours les bêtes. Je ne pensais plus qu'à courir pour les petites jambes nues qui trébuchaient sur les pierres, fêlées derrière les cris pointus, ses mains comme des ailes pauvres à vouloir attraper le ciel. Je ne voulais rien que les verser à terre pour m'y rouler dedans, lécher un peu et repartir. Ce qu'on dirait jouer chez les bêtes, filles et chez les chats, s'il existait un mot pour ça. Les enfants prirent un grand escalier et, toujours criant, disparurent derrière une porte large, tout enfoncée de clous. Moi, je restais devant, arrêté par la trique qu'une femme m'avait pointée sur mon milieu de la poitrine. Mais ce n'était pas une femme avec la robe noire et ses mains pâles, presque mortes. Ni même un homme non plus. C'était le Père aux cieux, comme je ne l'aurais jamais cru, parce qu'ils lui disaient tous « Mon père, arrivé en courant et partout derrière moi. Alors, mon père, qu'est-ce qu'on en fait, mon père? Voulez-vous qu'on l'attache ?» Tandis que celui qui avait inventé la parole me regardait sans dire un mot. Moi, je n'avais pas encore compris qu'on ne me faisait plus le baptême. Je ne sens jamais le grave, ce qui vient chez les hommes sans une tournée de vent. On vous pousse du ciel ou par derrière une porte, d'un instant l'autre, sans faire craquer la brindille. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils croyaient, Limaille, qu'on pouvait faire entrer n'importe quoi dans une église? Ainsi, c'était ça la voix du Père des hommes?
ce nasillement qui coupait sec à chaque phrase avec un chuintement de lame fine. Il fallait voir comme tout tombait au bout du doigt pointé de ce qui m'avait donné un courage. Dressé debout, tout tombait et tranchait aussi les pattes de la bête, les jambes de la fille, car je n'étais ni l'un ni l'autre, disait encore le père aux cieux, qui ne voulait pas m'avoir créé. C'est alors qu'il parla du fou, ce fou qui vole les mots des hommes pour les cacher sous les racines, les barbouiller de terre, les mener n'importe où. Et moi, j'étais cette folle, qui avait toujours rôdé par les lisières du village, à suivre un homme jusqu'aux abeilles, battre la campagne, à m'en arracher de partout, m'inventer une histoire d'enfant abandonné, attrapé en rampant porte à porte, quand j'emportais chaque soir quelques mots avec la couenne d'un jambon. Et je dus ranger mes griffes, toutes ces cicatrices qui ne prouvaient plus rien du tout. J'ai rouvert les yeux dans une pièce noire où l'on gardait un puits. Mais la nuit était dehors aussi, je sentais son haleine froide, le silence des oiseaux, la paille écrasée sous un flanc large dans une étable, le gémissement d'un chien rêvé et la forêt des murs où du son se perdait. J'ai flairé un moment par les recoins du mur, cherchant la fente, le soupirail, avec une frayeur grandissante, mais je n'ai pas trouvé d'enfuite. Même en cognant par la porte, aucun doigt n'y pouvait passer. La vieille douleur s'est réveillée aux cicatrices roses dans le bout de mes mains. Père aux cieux a fait l'homme et le fou. À l'homme, il a donné la parole pour qu'il la garde jusque dans ses silences. Au fou, il a donné la parole pour qu'il se perde à chaque fois qu'il parle, ou même en se taisant. Les mots de l'homme ont une maison avec une porte, un nom inscrit dessous pour qu'on les trouve, tandis que les mots du fou n'ont pas d'adresse. Ils vont partout. Le fou, c'est celui que la langue a tenu un moment auprès d'elle, et puis qu'elle a abandonné. Il n'y a pas de bête folle pour la raison qu'on n'a jamais rien donné à la bête. Qu'elle a tout trouvé par elle seule, même son cri. Ainsi, il n'y a rien qu'elle puisse perdre ou qu'on puisse un jour lui reprendre. La bête ignore tout du mot « abandonné ». J'avais déjà un peu entamé le bout de mes doigts à gratter furieusement par-dessous la serrure quand la porte enfin s'est rouverte. C'était Doucie qui me tira sur ses cuisses, me couvrant de mains, comme si j'étais un bout de son corps à elle et qu'il fallait sortir de l'ankylose, réveillée de partout. Mais cette fois, elle marmonnait. De me trouver ici enfermée, d'avoir écouté Limaï pour cette mauvaise idée du baptême. Tout ça, c'était des histoires d'hommes. C'est pourquoi je devais m'enfuir. Elle laisserait pour moi la porte entrouverte. Et Doucie, qui m'avait tirée jusqu'à la fille, a pris les deux jambes, le dormir des matelas, a dû racler la colère qui revenait à sa gorge pour me dire « Oublie tout ce que tu sais des hommes. Retourne à la forêt !» D'abord, je n'ai pensé qu'à l'enfuite avec la terreur de leurs cris à mes trousses, tous leurs bâtons dressés. Heureusement, la nuit s'y tenait encore, le visage avait les yeux fermés. J'étais déjà presque en allée, sans plus une seule maison à frôler, quand il fallut soudain que j'y retourne. Pourtant, j'avais la forêt devant moi, avec son ventre froid. Mais voilà qu'au lieu d'y bondir, je m'en suis repartie vers les hommes. J'avais entendu l'enfant pleurer. Celui qu'on allait pousser, demain peut-être, comme à moi, pour en faire un oublié. Ils avaient mis son lit à côté d'un carreau, et ce n'étaient pas des mains encore qu'il tenait dressées, parce qu'elles ne serraient rien du tout. À dire le vrai, je sentais bien qu'il était promis à la charogne, roulé sous une broussaille ou dans le fond d'un fossé. Le lait lui courait sous la peau, il ne tenait pas le debout. Comment espérer qu'il appelle et qu'il appelle encore, et quelle bête allait l'entendre, tandis que moi, je l'avais vu. Il n'avait rien de peau, rien pour le tenir comme un chaton par son derrière du cou. Et la tête penchait partout, ce n'était pas si commode. Mais enfin j'y parvins. Je pris l'enfant contre moi, respirant l'odeur chaude, derrière l'oreille où les hommes ont laissé des gestes qu'ils ne pourront jamais reprendre. Ça me laissait trois pattes encore pour galoper. Alors le vent s'est levé, un vent qui tordait les feuillages comme une grosse main poussait la nuit. Les branches cassaient partout, je voyais la forêt trébucher à sa suite. Une rafale a pris la combe, a bousculé les pierres. Il m'a fallu trouver un trou où attendre. Puis la tempête est retombée, j'ai pu reprendre la forêt. J'avais les cheveux de l'enfant sous mon nez, tout allait bien. Mais à peine arrivé à mon rocher, le petit sous mon bras, je n'ai eu que le temps de m'enclapir avec lui dans les désordres d'une racine, parce que Doucie venait. Elle s'assit comme de rien, trempant sa jupe au bord du vide et déballant d'un panier des bouteillons fermés par une mamelle remplie d'un lait encore tiède. Elle ne me cherchait pas, sans doute qu'elle me savait pas loin, parce qu'elle finit par parler sans se tourner, regardant la forêt devant elle.
Il était question d'une femme en bas au village et qui pleurait pour ce petit qu'elle avait porté dans son ventre et que ses seins voulaient nourrir encore et qui tellement lui manquait. Mais je savais bien, moi, ce que c'est qu'une mère, où il faut des mains puissantes pour s'y tenir sans la tomber quand elle secoue. L'enfant ne serrait rien du tout, c'était sûr qu'elle aurait fini par le perdre. Doucy se tut un moment à chercher d'autres mots. Et maintenant qu'un petit homme est trop fragile pour la forêt, alors me suppliant d'une voix sans le souffle, puis me donnant 12 ans à peine et partant soudain à la colère, que j'avais fait la pire des choses, que les hommes allaient me tuer, elle s'arrêta encore où je la sentais supplier aussi dans le silence et de sa nuque droite des épaules ployées. Je crois que ça dura ainsi jusqu'au lever de lune. Soudain, elle se dressa, plantant ses yeux dans le noir, vers l'endroit précis où je me tenais embusquée. « On reviendra demain. » À la tombée du jour, l'enfant se remit à couiner. Je lui mâchai un peu de viande molle, pensant qu'il avait faim. Il couina plus fort encore, recrachant tout avec une langue renflée, coléreuse. Puis ses yeux se mirent à couler et je sus qu'il pleurait, comme il se fait chez les hommes. C'était un chagrin tellement puissant qu'il en ferma les yeux d'abord, à les plisser puis les rentrer si profond au visage que j'ai cru un moment qu'il n'en reviendrait pas. Pourtant les larmes sortaient encore, que je léchais l'une après l'autre pour qu'elles s'en aillent. Lorsqu'il rouvrit les paupières, c'était comme s'il ne me voyait plus. Son regard me passait pour chercher quelque chose qui n'était pas non plus dans les feuillages ou dans la grotte derrière moi. Et le chercher ainsi, avec ce petit cou tourné partout, ses pupilles affolées, le rendait seul, même dans mes bras, d'une solitude désespérée, sans remède. Alors j'essayais le bouteillon de lait. L'enfant disparut une fois encore au fond de son visage, tandis que son poing me cognait comme une porte de placard. Je voulus croire enfin qu'il avait froid, qu'il n'était pas à tortiller dessous pour espérer voir une mère. Mais il y avait les mots de Doucy, posés partout à côté des flacons dans le panier retourné. Tant et si bien que j'en perdis l'envie, et d'en faire un sauvagin dans ma façon, aller lui chercher une queue, lui apprendre à chasser, mettre la lumière dans ses yeux pour traverser la nuit. Surtout qu'il était mou, ne tenait pas sur son croupion, ne supportant qu'un coucher sur le dos, avec une tête lourde, des bras toujours tendus. Et me le coinçant sous une patte, je dévalais ainsi la montagne, ses cheveux tournés à l'envers pour ne plus y mettre le nez, tâcher d'en oublier le goût. Puis courant jusqu'au village où les hommes mettaient déjà les premières fumées, je pris le toit, gagnant ainsi la fenêtre restée ouverte pour le jeter dans son lit. J'ai tout de suite senti, quittant la chambre dès le rebord du toit, qu'on m'avait fait le piège. C'était de ces silences sournois par où la bête entend le bruit, et les hommes m'attendaient. Aussitôt je rampais dans les ombres, glissant par le revers des murs jusqu'à la terre d'un jardin, puis à me couler sous les herbes. Partout les chaînes traînaient devant les caisses vides, ils avaient lâché les chiens. Ils devaient être à remonter ma trace encore dans le haut bois, avec leurs jappements fébriles et toutes leurs queues dressées. Il fallait regagner la forêt au plus vite, mais je savais déjà que je ne passerais pas. Il n'y a rien comme la peur de l'homme, cette mort sans odeur, sans combat qu'il me veut, où je n'ai qu'à tomber, au bout d'un œil rond, d'un doigt crispé, foudroyé dans le loin. Les hommes se tiennent sur la lisière, portant des torches au bout du dernier champ, avec toute ma forêt derrière, où je voudrais tellement rentrer pour m'y couler comme une eau sous la mousse, j'en tremble de partout. Je m'assois un instant pour me calmer le ventre, rattraper mes respirations. Mais j'entends la voix des premiers chiens, il me faut repartir. Une porte s'ouvre à la dernière maison et Limaille apparaît. Son visage est couvert de poils qui lui mangent jusqu'au-dessous des yeux. « Allez, approche, viens te mettre à l'abri. » Et voilà qu'il me donne de ces misérables bruits de bouche, comme font les hommes pour appeler les chèvres, ces bêtes molles qui ne marchent qu'au bâton. Je me détourne, traverse en rampant le verger, vers où les autres sont à m'attendre avec leurs feux et leurs fusils. Ils ont leurs ombres couchées devant. La lumière des torches montre le bout d'un poignet, l'angle acéré d'un visage. Je crois que c'est de moi qu'ils chuchotent.
mais j'entends derrière eux le grand soupir de la forêt. Quelque chose clignote. Peut-être est-ce un regard de bête, à moins que ce ne soit un restant de pluie, ce qui met parfois des lumières au bord des feuilles lourdes. Qu'importe, à cet instant, il ne m'en faut pas plus pour me dresser d'entre les herbes, mis à la bête, mis à la fille, marcher devant les hommes vers la lisière de la forêt. Les chiens aboient au loin. J'ai jeté mes cheveux par derrière en fourrure avec la pointe des seins dressée et feulant grave pour qu'ils m'entendent, mais lâchant aussi quelques mots. Maintenant, j'en suis sûre, ce n'est pas l'eau sur la feuille, ça brille encore par derrière la lisière, ça ne brille que pour moi. Alors le vent forcit qui fait courber les branches partout derrière les hommes. Un vent bruissant d'haleine où la rumeur se vient. Et c'est ce qui retient d'abord les doigts un instant aux gâchettes, bien avant que les têtes se retournent vers ces buissons tout frissonnés. Car l'on entend déjà le craquettement des brindilles aux coulées fines dans la bruyère, les fougères écartées, et toutes ces mottes sèches rebondir doucement qu'on dirait sous un pas. La nuit se remplit partout, de branche en branche, dessous les arbres et jusqu'au bord de la forêt. Il vient une ombre sous chaque ombrée, avec quelques frottées singulières qui bousculent un feuillage, font crier un oiseau. Tout ça frétille jusqu'au contour des torches où ça grognonne par endroits, jusqu'au moment où il ne reste plus, de l'autre côté de la lisière, une seule ténèbre à combler. Silence inquiet des hommes qui se retournent lentement derrière eux vers les arbres. Soudain, toutes les paupières s'écartent en une fois, en même temps. Toutes les paupières des bêtes venues jusqu'ici dévaler la montagne pour regarder les hommes, leur ouvrir ces pupilles luisantes comme des miroirs tendus. On ne soupçonne pas la diversité des prunelles bordées de plumes, de poils ou d'écailles, ni comment certaines palpitent tandis que d'autres brûlent en fente fine, en arrondi ou dissipées en poudre fine pour ces éclats minuscules de bêtes sans le nom. Ainsi, la forêt s'embrase d'une prodigieuse attention où ce qui se cachait depuis toujours est plus présent que l'arbre. Les hommes diront peut-être qu'il y avait aussi un ours, quelques lourds à meuter. Il faut au moins de ces bêtes-là pour expliquer qu'il m'ait laissé filer avec tant de doigts pliés pour moi, recourbés sous les armes. En ce qui me concerne, je n'ai vu que les yeux. Mais je n'ai pas attendu que les hommes s'y reprennent pour m'y jeter à terre-ventre et courir à leur suite dans le profond des bois. C'était le temps seulement d'un battement de paupières, le temps que je passe la lisière, tous les regards des bêtes un instant sur les hommes, avant que la forêt s'éteigne, que la nuit reprenne le monde. Je saurais parler encore. Je mettrai ma gueule à un trou de racine avec les mots qu'il faut pour agiter la sève par le dedans d'un arbre. Je voudrais que la terre ondule en même temps que les arbres se mettraient tout à coup à grandir, à pousser, et les voix qu'ils gardaient dessous dans la gorge des racines éclateraient sous le ciel. Je préfère ne pas dire la force de ces paroles si longtemps macérées. Pour chaque arbre maintenant, il y aurait deux ramures, celle qui portait les feuilles et que tout le monde connaît, mais aussi celle qui s'est toujours tenue déployée sous le sol, filandreuse et tordue. C'est elle qui cinglerait partout, grifferait la terre, l'aiderait à ramper. Les arbres avanceraient en tournant lentement d'abord, le temps que ces mille pattes longues apprennent à s'y tenir pour le poser des pas. Puis les forêts se mettraient à courir, renversant tout devant elles, survolées par des nuages d'oiseaux qui prendraient la lumière du ciel. Et tandis que les bêtes suivraient, espérant la nuit pour venir se coucher sous le repos des arbres. Ainsi, la forêt passerait, mais sans tuer les hommes, serrés au fond des caves.
Je suis la bête de Anne Cibron, lue par Christine Boisson. Texte nu, enregistré dans le cadre du festival Nîmes Culture 2007 à l'hôtel Meynier de Salinelles, une production de la SACD et France Culture en partenariat avec le Théâtre de Nîmes. Prise de son, Olivier Dupré et Émilie Couette. Sonorisation, Alex James. Réalisation, Diffie Mariani, avec l'équipe du Théâtre de Nîmes.